Bonjour à tous, bienvenue dans Échange et Regards, notre magazine local et culturel. Près de 40% des maires sont retraités, 36% des plus de 65 ans sont bénévoles dans une association dont plus de la moitié des responsables sont des retraités également. Mais le cliché des personnes âgées inactives perdure et plus globalement une vision négative de la vieillesse. Une représentation qui nuit à toutes les générations. Alors vive nos parents, nos grands-parents et arrière-grands-parents. Et pour ouvrir de nouvelles perspectives, nous recevons aujourd'hui Anne-Marie Georges, secrétaire de l'association Maison des Générations, et Jimmy Levacher, conseiller municipal à la ville de Valence pour la gauche écologiste et populaire. Et en dernière partie d'émission, Bastien Hénard a reçu le réalisateur Gérald Ojoula pour donner des nouvelles de son film Tchoukar le Polin qui poursuit sa route et sa diffusion depuis un an. Alors bonjour à mes deux invités du jour,
bonjour.
Anne-Marie, bonjour. Anne-Marie, j'ai une question, doit-on dire les personnes âgées, les vieux, le quatrième âge? Comment est-ce qu'on dit?
Eh bien nous on dit dans l'association, on dit les vieux, parce qu'on trouve que le mot vieux est un beau mot. Pourquoi on dit les jeunes et pas les vieux? C'est pas péjoratif du tout dans notre vocabulaire, et en plus les personnes âgées ça ne veut rien dire. Parce qu'on est âgé lorsqu'on vient de naître, d'une minute ou de 10 minutes, on est âgé toujours par rapport au début de la vie. Donc c'est un terme qui ne veut rien dire pour nous.
Donc voilà, si je dis les vieux,
ça me va.
Ça vous va. Et puis effectivement, vous dites les personnes âgées, ça ne veut rien dire. Donc vous, quand vous voyez par exemple les catégories alors 65 ans et plus... J'imagine que ça ne vous plaît pas du tout, vous dites que ça n'a pas de sens.
Bah, si, ça a du sens, puisque les 65 ans plus de 65 ans, ce sont des personnes qui ont droit à un certain nombre de subventions ou d'aides de la collectivité. Donc ça veut dire quelque chose, plus de 65 ans. Mais dans l'absolu, ça ne veut rien dire, on est d'accord.
Donc je le disais, vous êtes secrétaire de l'association Maison des Générations. Quel est l'objectif de cette association ?
Alors, cette association, elle a 18 ans aujourd'hui. Elle a été créée parce qu'on voulait défendre, on a un tout petit groupe de personnels qui avons travaillé dans le domaine de la santé et du social. Et on veut défendre vraiment l'idée, et on le défend encore aujourd'hui, encore plus fort, parce qu'on pensait être des précurseurs en 2016. Mais non, maintenant, il faut encore continuer à battre le pavé, à essayer de convaincre. Notre objectif, c'est de sensibiliser un maximum de personnes à l'intérêt du lien entre les générations. Parce qu'on y croit vraiment très très fort. On pense que à la fois dans l'habitat, à la fois dans le lien social, on a tout à gagner à être avec des personnes qui ne sont pas de notre génération, qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux ou qu'on soit médian. C'est quand même pour nous quelque chose de très important. Et c'est pour ça que depuis 16 ans, on essaie de diffuser, de convaincre un certain nombre de données scientifiques d'ailleurs, puisqu'on a fait des colloques, des conférences avec des experts reconnus nationalement et même internationalement. Et puis on essaie d'accompagner le maximum de projets d'habitat intergénérationnel, sociaux et solidaires.
Et depuis 16 ans, donc vous dites, est-ce que c'est toujours difficile? Donc vous auriez espéré que les mentalités auraient bougé davantage?
Oui, je pense que les mentalités, elles évoluent, certes, mais à notre avis, pas assez vite. Et on est quand même dans une société qui, ça est de plus en plus, vous le savez, individualiste. On regarde notre nombril, on est de plus en plus frileux. Il faut dire quand même que l'actualité internationale ne nous aide pas beaucoup à avoir des perspectives heureuses. Donc voilà, je crois qu'il faut essayer de pousser un petit peu les portes de ces individualismes et de ces replis sur soi pour voir que d'une part c'est pas que des belles idées, hein. C'est qu'aussi économiquement on y croit. On croit qu'économiquement le lien entre les générations il peut répondre à un certain nombre de problèmes justement économiques. On parlera peut-être des EHPAD ou des...
Bien sûr.
Voilà, pour les générations qui arrivent aujourd'hui, qui arrivent à 80, 90 ans, 100 ans, on sait bien qu'on va être de plus en plus vieux et tant mieux, mais il faut peut-être réfléchir à qu'est-ce qu'on va leur offrir comme cadre de vie en particulier.
Mais oui, on va y revenir sur cet intérêt mutuel et dont vous parliez aussi de l'aspect économique, à bien s'occuper, à bien considérer les vieux. Je vais le dire comme ça, alors je me l'approprie aussi. Jimmy Levaché, on va parler, vous avez organisé il y a quelques semaines une assemblée participative Bien vieillir à Valence, donc on va revenir sur ce que vous avez fait pendant cette assemblée-là. Mais pourquoi vous travaillez donc sur cette question de la vieillesse? Pourquoi?
Alors notre rôle en tant qu'élus municipaux, en fait, est d'essayer d'avoir une approche globale en fait des problématiques des habitants de Valence. Et tout ça part d'un constat, en fait, c'est que, alors effectivement, ça c'est pas que valentinois, c'est national, hein, la population est vieillissante. Et si on prend des chiffres, aujourd'hui sur Valence, on se rend compte qu'il y a 16 800 personnes qui ont plus de 60 ans, 7 000 qui ont plus de 75 ans et 900 qui ont plus de 90 ans. Donc c'est beaucoup de personnes, hein, parce que ça représente 26% de la population valentinoise.
Ce qui est à peu près, je me permets, la moyenne un peu plus même que nationale. On est à peu près à 20%.
Tout à fait.
De la population qui est à plus de 65 ans.
Tout à fait, mais donc un peu plus sur Valence par rapport au national. Oui. Donc c'est effectivement un enjeu important, et d'autant plus que derrière le terme de vieux, de personnes âgées, alors je vais essayer aussi de m'approprier le terme vieux, il y a des personnes, et la plupart des personnes plus jeunes ont quelquefois tendance à l'oublier, et les politiques ont tendance à l'oublier, c'est-à-dire qu'on fait souvent des stats, des chiffres, on parle de revenus qu'on leur donne, que l'État leur donne, etc. Mais derrière, en fait, on parle de qui? On parle de nos parents, on parle de nos tantes, de nos oncles, de nos grands-mères, etc. Et de nous, dans quelques années, parce qu'on espère tous devenir des vieux. Donc, partant de ce constat-là, nous, en fait, l'approche qu'on a eue, c'est déjà dans un premier temps d'essayer de faire remonter par des Valentinois et des Valentinoises les différentes problématiques auxquelles elles sont confrontées. Donc en fait, il y a différents sujets qui sont remontés, on pourrait y revenir si vous voulez. Et en fonction de ça, on a essayé de faire émerger certaines propositions en s'inspirant, et on pourra aussi le développer si vous le voulez, en fait, d'un concept qui s'appelle les zones bleues, ou les blue zones. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce concept.
Pas si bien que vous, je pense.
Alors c'est un concept qui a été étudié. Alors qu'est-ce que les zones bleues? Les zones bleues, en fait, c'est les zones internationales où les seniors vivent le plus longtemps et en meilleure santé. Alors, il n'y en a pas 15, hein. En fait, il y a Okinawa au Japon, il y a la Sardaigne en Italie, il y a l'île d'Icaria en Grèce, Loma Linda en Californie et la péninsule de Nicoya au Costa Rica. Donc, il n'y en a pas 30. Mais en gros, il y a des études qui ont été faites sur ces secteurs. En fait, pourquoi les personnes y vivent plus longtemps et en meilleure santé? Et en fait, il y a tout un ensemble de principes en fait, de vie qui leur permettent en fait, d'avoir une longévité aussi importante et qui nous semblent intéressantes à étudier pour essayer à les mettre en corrélation avec notre territoire. Donc, c'est tout l'enjeu qu'on a actuellement d'essayer de faire remonter, d'où l'intérêt de ces réunions participatives pour faire remonter les éléments et derrière pouvoir on va dire, les affiner avec les habitants.
Anne-Marie Georges, c'est une démarche que vous trouvez intéressante, justement, de faire remonter, donc de s'inspirer d'études, de voir ce qui est les données. Vous parliez tout à l'heure de données scientifiques hein, qui vous importent, et puis de faire parler, en fait, aussi, de donner la parole aux personnes concernées.
Évidemment.
Et leur poser la question, quoi.
Évidemment, puisque c'est quand même eux qui sont au premier chef intéressés, hein, les habitants ou les habitants d'une commune ou de voilà. Donc moi, je pense bien sûr que c'est primordial. Les études scientifiques qui viennent d'être dites, je les connais à peu près, peut-être pas dans les détails comme il vient d'être dit, mais en tout cas, on sait très bien que ce qui va aider à limiter la perte d'autonomie, parce que nous, c'est ça qui nous intéresse, hein, c'est quand même ça. C'est-à-dire, on veut bien vieillir, mais en pas trop mauvaise santé le plus longtemps possible. C'est quand même ce que demande tout le monde. Eh bien, on sait que c'est l'alimentation, la façon de bouger, et puis surtout... Enfin, non, surtout, j'exagère. Mais aussi, le lien social, c'est-à-dire que c'est ça qui fait tenir les gens le plus longtemps. Or, je vous parlais tout à l'heure de l'individualisme vers lequel on va de plus en plus. L'isolement, c'est une plaie absolument abominable pour tout le monde, hein, mais particulièrement pour les vieux. Vous avez qu'à voir l'expérience du Covid il y a quelques 2 ans. Il n'y a pas d'études qui ont été faites sur les morts en EHPAD. Alors, on vous dit qu'il y a des morts à cause du Covid, moi je veux bien sûr qu'il y en a eu. Et tous ceux qui sont morts parce qu'ils ont été tout seuls, qu'ils n'ont pas pu voir leur famille, ils se sont laissés glisser. On appelle ça le glissement hospitalier. C'est-à-dire que, voilà, plus d'intérêt de vivre. Quel intérêt on a à vivre quand on est dans un EHPAD, qu'on est tout seul, on est coupé de toute sa famille. Voilà, donc l'isolement pour moi c'est quelque chose vraiment sur lequel il faut vraiment beaucoup travailler.
Si je peux me permettre, effectivement, parce qu'on va vous parler d'isolement, mais en fait on a dans l'imaginaire collectif, on a souvent tendance à croire que l'isolement est plus fréquent pour les personnes âgées en campagne qu'à la ville.
C'est faux.
C'est exactement l'inverse.
Bien sûr.
C'est exactement l'inverse parce que, alors même si ça s'est perdu, perdure encore aujourd'hui en campagne, on va dire, le voisinage, les relations de voisinage.
La solidarité
qui s'est perdue en ville, ou malheureusement avec notre style de vie. Métro, boulot, dodo, hein, même si on n'a pas le métro ici, en gros, on rentre et on ne connaît plus ses voisins. Et on ne s'intéresse plus aux voisins, et c'est relativement, malheureusement, fréquent qu'on entende, en fait, sur Valence ou des villes de ce type-là, en fait, des personnes âgées qui sont décédées, qui sont retrouvées plusieurs mois après dans leur logement. Et on touche, en fait, à l'aspect peut-être le plus dramatique, en fait, de l'isolement.
Donc on va je vous interromps, on va parler dans une deuxième partie, on va revenir je pense sur les questions économiques et notamment ce qui revient entre vous deux c'est comment on vit, où on vit, où vivent les personnes âgées. Mais d'abord on écoute un titre très, très agréable avec un synthé pop d'un trio français qui s'appelle Music on Hold avec leur album Forever et un titre particulièrement agréable, Last Love.
Thank you. long as you can.
Vous êtes toujours sur Radio Méga 99.2 dans Échanges et Regards. Et ce midi, nous parlons de nos aînés, de nos vieux, comme on le dit depuis tout à l'heure, avec un aspect positif à ce terme. Et j'ai à côté de moi Anne-Marie Georges, secrétaire de l'association Maison des Générations, et Jimmy Levacher, conseiller municipal à la ville de Valence pour la gauche écologiste et populaire. Donc en première partie d'émission, on parlait effectivement de la vision négative de la vieillesse, qui est dommageable pour tout le monde. Et notamment aussi, vous avez mis l'accent sur où vivent les personnes par rapport à l'isolement. Jimmy Levacher, j'aimerais bien qu'on revienne sur l'assemblée participative Bien vieillir à Valence. Du coup, vous disiez que l'idée, c'était de faire remonter, de faire parler les gens bien sur qu'est-ce que bien vieillir, comment bien vieillir et qu'est-ce que vous avez eu comme piste, qu'est-ce qui est ressorti ?
Alors déjà, des problématiques qui sont remontées. Alors les principales, ça a été au niveau des déplacements. L'accessibilité, ça c'est un vrai enjeu pour que les seniors puissent se déplacer. L'accès au logement, on va en parler, hein, je pense. L'accès aux soins, alors ça c'est une problématique qui est nationale, mais qui est prégnante de partout, et notamment sur Valence. L'isolement, on en a parlé dans la première partie de l'émission. Et l'environnement, c'est-à-dire la nécessité d'avoir plus d'espace vert, des bancs à différents endroits et à des distances très raisonnables pour pouvoir se balader, sortir et maintenir un lien social. Donc ça, c'est, on va dire, les problématiques majeures qui sont ressorties. Après, au niveau des propositions, on va dire, à étudier, hein, bien sûr, c'est beaucoup de propositions, en fait, sur alors, il y en a beaucoup, hein. C'est l'aménagement, on va dire, de l'environnement. Un environnement urbain qui soit propice à l'activité physique, on y revient, c'est-à-dire avec des parcs, des bancs, etc., etc., pour que les gens puissent sortir. Un accès à une alimentation saine. Ça, c'est essentiel aussi avec un soutien aux producteurs locaux, des marchés de proximité. Il y en a aujourd'hui sur Valence. Est-ce qu'il y en a assez ? Ça, c'est un enjeu qu'on va devoir creuser, nous.
Sachant qu'on ne l'a dit, pardon, tout à l'heure, l'alimentation est essentielle. Vous parliez des zones bleues et dans les études, il est remonté que la bonne alimentation est l'un des éléments majeurs qui explique la longévité des personnes âgées.
C'est un enjeu majeur. Il y a le soutien social aussi et communautaire. L'idée, c'est ce qui nous est remonté, c'est d'essayer de favoriser les initiatives locales par les réseaux des MJC, des MPT, mais également des associations pour que les seniors maintiennent un lien social et justement échappent à l'isolement. Des services de santé accessibles, c'est des réponses aux problématiques. Des logements adaptés, avec notamment des logements intergénérationnels. Il y a une grosse demande là-dessus. Alors, ce qui est assez cocasse, enfin, entre guillemets, c'est que la demande vient des personnes âgées, mais également des plus jeunes. Parce que les plus jeunes peuvent être isolés, mais les plus jeunes peuvent également, entre guillemets, manquer de ce qui existait par le passé, c'est-à-dire ce lien de voisinage où, on en parlait tout à l'heure en off de l'émission, j'ai une course à faire d'une heure ou deux heures, la voisine qui est plus âgée peut me garder mon enfant, je pars une semaine en vacances, elle peut me garder mon animal, enfin, vous voyez, ce genre de choses. Voilà, c'est quelques exemples, mais il y a beaucoup de choses qui sont ressorties, bien sûr.
Anne-Marie, vous l'entendez aussi de la part des jeunes, parce que votre association, je le rappelle, s'appelle Maison des Générations, on n'est pas Maison des Personnes Âgées.
Oui, oui.
Et donc, l'idée, c'est d'avoir, vous organisez beaucoup de choses, notamment des ateliers, des conférences, dans lesquelles tout le monde est le bienvenu. Est-ce que les jeunes disent la même chose que ce que Jimmy Levacher?
Absolument, absolument. Ouais. Nous, on s'est rendu compte qu'en fait, cet isolement, c'est pas du tout seulement les vieux qui subissent les conséquences. Hein. Par exemple, les mères de famille isolées, hein, les mères isolées avec enfants, ont besoin d'appui autour d'elles. Les jeunes en période, par exemple, de diffusion familiale, hein, qui sortent du lycée ou de l'apprentissage et qui cherchent du travail, ils s'en vont de chez eux. Ils sont dans un immeuble ou une ville qu'ils ne connaissent pas. Ils sont seuls. Donc, pour nous, le lien social, il est bénéfique à tous les âges. Et notre but, c'est que cet habitat intergénérationnel, on y pense vraiment, on espère qu'il va pouvoir se faire, c'est quand même basé sur des échanges de services gratuits. C'est-à-dire, comme Jimmy vient de le dire,
garde d'enfants, ou porter des courses.
Aide à l'informatique, aide aux démarches administratives, enfin bon.
Un vrai sujet.
Et du coup, moi, rétablis un peu la question des vieux là-dessus. C'est-à-dire, les vieux, ben, ils ne sont pas seulement des objets de soins, de sollicitude, de profit, de regard compatissant de la société. Ils ont des choses à donner, quel que soit leur âge, et à apporter à la société, et donc aux plus jeunes. Donc, je pense que c'est vraiment un échange. La réciprocité, pour nous, c'est très important.
L'habitat dont vous parliez, intergénérationnel, à Saint-Paul-les-Romans. Vous parliez de celui-ci.
Alors, il y a une déclinaison, oui.
Il y a un projet.
Il y a un projet à Saint-Paul-les-Romans que l'association soutient, bien sûr. Nous avons fait l'année dernière une immense exposition photo dans les rues de la commune avec des photos géantes sur le thème de l'intergénération. Grâce à tous les habitants qui s'y sont mis, l'OCCAS. Donc, on a eu des photos qui ont été dans les rues de 1 mètre sur 2 mètres sur 1 mètre 30. C'était assez extraordinaire pendant 6 mois de voir la population s'intéresser à ce sujet-là et à comprendre l'intérêt de cette action-là. Donc oui, c'était aussi pour sensibiliser les personnes, les habitants de cette commune, puis aux alentours, parce qu'il y a eu des visites aussi qui sont venues d'ailleurs, mais à ce projet de lieu de vie intergénérationnel, social et solidaire qui... on espère va émerger dans les mois qui viennent, mais qui est quand même co-construit actuellement depuis 2018. Donc c'est quelque chose, on sait, de très très long et il ne faut pas baisser les bras, mais on y croit.
Alors, j'ai envie de vous demander à tous les deux, donc on dit que finalement les envies, il y en a des deux côtés, chez tout le monde, mais alors qu'est-ce qui nous manque? Pourquoi on ne les fait pas plus, ces habitats intergénérationnels, par exemple? Pourquoi ça ne va pas plus vite? Je la pose volontairement de manière provocante. Je sais bien, puis vous parliez tous les deux, en plus, de modèles de société, où on est chacun chez soi, on manque de temps. Mais du coup, plus concrètement, par exemple, Jimmy Levacher, localement, qu'est-ce qui pourrait être porté comme proposition comme,
Ma position est claire sur le sujet. On est sur des choix politiques, hein, pour le coup. Effectivement, il y a des associations qui essayent de se démener, on va dire ça comme ça, de faire au mieux sur des sujets qui leur tiennent à cœur et qui sont des sujets, en fait, si on enterre ces sujets, à un moment donné, ça va nous rejaillir en plein visage, hein, soyons clairs, parce que le vieillissement de la population, c'est juste un fait auquel on va tous être confrontés. Donc ces choix politiques, en gros, il faut avoir le courage, en fait, d'essayer d'avoir une vision globale, une approche globale, en fait, du vieillissement de la population. Et donc les projets, il va falloir les co-construire. Donc je vais pas pouvoir vous dire aujourd'hui il y a telle chose va être faite en 2028 ou 2029 parce que ça serait un mensonge de ma part. Mais justement, il va falloir s'appuyer justement sur l'expertise des associations. Enfin, moi c'est ma vision, hein, l'expertise des associations pour co-construire des projets et essayer de les faire sortir vite de terre. Pour qu'on parlait de pareil, en off, on parlait des EHPAD. Aujourd'hui, alors il y a des très bons EHPAD, des mauvais EHPAD, c'est comme tout, hein. Mais ça n'est pas la solution unique. Il va falloir aujourd'hui qu'on creuse cette
Il faut inventer des alternatives. Exactement. Au maintien à domicile, parce qu'il y a une étude donc, qui a été faite, 82% des Français souhaitent finir leur vie dans leur logement.
J'ai même 85, vous voyez,
oui,
en 2019.
Oui, peut-être, voilà. Et donc, voilà, et c'est bien gentil, mais on sait bien que ça a des limites aussi.
Bien sûr.
Les EHPAD, ils auront des limites aussi, à la fois sur le plan du nombre de places et puis du coût. Donc, il faudra trouver des alternatives. Et nous, on pense que cet habitat intergénérationnel, il est quand même une des alternatives, sûrement pas la seule. Il faut inventer des choses. Mais enfin, il faut avoir, comme vous disiez, une volonté politique. Nous, à Saint-Paul, ce qu'on a trouvé, c'est vraiment une municipalité qui a cette volonté politique. Et ça veut dire, cette volonté politique, c'est pas seulement des mots, c'est-à-dire vraiment un engagement, un engagement des personnes qui y croient, qui croient que c'est vraiment l'intérêt à la fois de la commune, des habitants. Donc voilà, moi je crois que vraiment il faut à la fois, parce que oui, les associations, ça suffit pas.
Oui, bien sûr. Hein, l'action.
Il faut aussi qu'on ait que vraiment les collectivités, les municipalités s'emparent de ce sujet-là, parce que comme vous disiez, on va droit dans le mur si on fait rien.
On est d'accord.
Merci à tous les deux. Alors, on arrive sur la fin de cet échange, mais pas complètement. On a reçu en studio Pierre Sylvain, notre effectivement poète de la radio, qui lui s'est demandé, parce qu'on parle des vieux, des personnes âgées, plein de termes, mais finalement, qu'est-ce que c'est être vieux ? Pierre-Sylvain.
Exactement, Sophie. Alors, bonjour à tous. Merci de me recevoir. Très content de revenir dans Échange et Regard. Très ému, surtout, de faire une chronique sur les personnes âgées. N'ayant pas connu mes grands-parents, c'est avec une forte émotion que je suis là aujourd'hui. Je ne les ai pas connus parce que c'était de grands voyageurs. Ma mère disait qu'ils étaient un continent. Alors, chronique sur les vieux. Déjà, pour commencer, c'est quoi une personne âgée? C'est quoi un vieux? À partir de quand sommes-nous vieux? C'est l'âge qui le détermine, c'est le comportement, les phrases que nous pouvons dire. Est-ce que je peux être considéré comme vieux parce que j'écoute du Demis Rousseau, c'est que j'ai un béret, j'ai un pote qui dort avec une bouillotte, alors est-ce qu'il est vieux? Et j'ai un pote qui vote Macron, donc on a tous des réflexes de vieux. Puis ça veut rien dire, personnes âgées, vieux, c'est subjectif. Pour moi, Bastien est une personne âgée parce qu'il a plus de 40 ans et qu'il trouve ça cool de dire un peu mon neveu. Et pour mon petit cousin, je suis vieux parce que je suis plus âgé que certains joueurs de l'équipe de France de football. Nous sommes tous les vieux de quelqu'un, donc à la question « Quelle est la place des vieux dans notre société ?», la réponse est partout et nulle part. Surtout, en plus d'avoir des réflexes de vieux, nous les jeunes, nous avons les mêmes problèmes dont peuvent souffrir certains vieux. Je m'explique, les vieux avec l'âge, ils ont des vertiges, des acouphènes et des fuites urinaires. Eh bien ces problèmes, il nous arrive, nous les jeunes, de les avoir aussi, lorsque nous sommes en soirée ou en festival. Il est vrai que quand je suis en soirée, j'ai quelque peu mal à la tête à cause de la musique. Il est vrai aussi que j'ai quelques vertiges à cause de la musique. Et il m'est arrivé parfois aussi, pour ne pas dire toujours, d'avoir les chutes du Niagara dans le slip à cause cette fois-ci de la bière. Donc nous avons les mêmes problèmes. D'ailleurs, petit conseil pour les personnes âgées qui nous écoutent pour éviter les vertiges, prenez une petite trace de cocaïne, ça équilibre et puis ça booste. Alors ne faites pas les choquer, si nous les jeunes nous avons vos problèmes, les personnes âgées ont les nôtres aussi. Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, l'usage des drogues dans le monde a littéralement augmenté plus rapidement chez les personnes âgées que chez les jeunes lors des 10 dernières années. Par exemple, en France, en 2017, 1,6% des 55-64 ans avaient un usage annuel des drogues et en 2020, ils étaient 2%. Mais plutôt que de parler de chiffres, parlons de faits concrets. La preuve ultime que les personnes âgées consomment de plus en plus de drogue, c'est que mon dealer habite à côté d'une maison de retraite. C'est lui qui me le dit, je n'ai jamais brassé autant d'argent depuis que les 68 arts sont dans les EHPAD. Il m'a même dit que maintenant dans les maisons de retraite, le mot d'ordre c'est BDSM, Bédo pour détendre super mamie. Donc les jeunes se font pipi dessus, les vieux se droguent, au final il n'y a pas de frontières. Aimons-nous les uns les autres, aimons-nous les uns dans les autres, c'est quand même dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Sur ce, je dois vous laisser, je vais rejoindre mes grands-parents en Amérique du Sud. Les incontinents ont pas mal voyagé en Argentine après la guerre. Papy et mamie Himmler, j'arrive. Sur ce, merci de m'avoir écouté.
Merci Pierre-Sylvain d'être venu.
De rien Sophie.
Vous êtes d'accord Anne-Marie-Georges que être vieux c'est pas forcément un âge, c'est aussi une question de mentalité.
Oui, bien sûr, c'est une question de mentalité, mais enfin, le corps est là quand même, hein, il ne faut pas oublier. Alors oui, bien sûr, c'est une question de... On peut être très jeune à 90 ans dans sa tête, et puis on peut être très vieux à 20 ans, on est bien d'accord.
Mais peut-être qu'on n'appliquera pas les conseils de Pierre-Sylvain concernant pour régler certains problèmes. Hein. Je suis pas
problèmes
sûre.
De drogue.
Oui, non, je suis pas sûre. Je déconseille nos auditeurs. Pour terminer avec tous les deux, Anne-Marie Georges, l'association Maison des Générations porte aussi le projet national Hold Up, qui est une association nationale, et vous la représentez au niveau régional.
On est surtout le relais. C'est une association Hold Up, les vieux debout, hein, c'est pas le braquage. ça s'écrit pas pareil. Et donc on est les représentants régionaux de cette association, qui est une association nationale, hein, une très très grosse association. Et c'est une association qui a pour objectif de porter en fait la parole des vieux dans les instances publiques et privées, et qui met en place des réseaux de réflexion, d'échange, d'action, de recherche sur la question du vieillissement. Donc ils font beaucoup d'enquêtes, ils font beaucoup d'interventions aussi dans les ministères, ils font beaucoup d'interventions dans les médias. Ils sont extrêmement actifs, beaucoup plus gros et forts que la Maison des Générations. Mais on s'appuie sur eux et ils sont aussi très contents d'avoir des retours de ce qui se passe dans les territoires. Parce que bon, c'est Paris, hein, c'est le, voilà.
Mais, et puis on a besoin du local, hein.
Ils ont besoin du local et des remontées qu'on peut le, et vice versa.
Très bien. Merci beaucoup Anne-Marie Georges. Donc je le rappelle, vous êtes secrétaire de l'association Maison des Générations. Puis on avait aussi Jimmy Levacher, conseiller municipal à la ville de Valence pour la gauche écologiste et populaire. Merci à tous les deux d'être venus effleurer ce sujet que sont les personnes âgées. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais peut-être que vous reviendrez pour développer peut-être certains points,
avec plaisir,
notamment l'habitat. Ça mériterait, je pense, voilà, un focus uniquement sur celui-ci. Avant de passer à notre dernière partie d'émission, je vous propose d'écouter Chinese Man. Chinese Man, on les connaît bien, c'est un groupe qui a 20 ans, et c'est un groupe qui voulait faire le point entre le groupe qu'ils ont lancé il y a déjà 2 décennies, et puis le groupe qu'ils sont maintenant, un groupe qui produit aussi d'autres groupes à travers un label indépendant. Et donc ce nouvel album We've Been Here Before répond à cette question, celle de retrouver l'étincelle en faisant fi des désenchantements ponctuels qui ont égrené leurs années.
Déjà vu, we've been here before, today's not new. And every station is the same song too, it plays on loop. Déjà vu.
I'm not in the dark about who to vote for while sitting in the dark. Good folks, I think we need a talk. Wisdom taught, name your kids after they speak and walk. They should keep the torch to lead us out, these Egyptian whores. It's long way from the soup dinners. 4-room, bitter cool winters to heated pools even. All my goons went from baboons to zookeepers. When you was too sheepish to join the wolves eating. My OG carried 2 pieces. Bucket for the chicken sold to the earthy. 2 season, newsreader, gloomy forecast like Brutus 2 Caesar. Drew me flow plans to tunnel through Egypt to the gold found. I'm just trying to dribble through my homeland. The gods must be crazy dealing with this coke glass. Smoked out cousin, whole lot of nothing. Nose running, wanna go clubbing. I'm the gold funding when he old loving. Pity the sheep, follow the wolf. Making the meal from low hanging fruit. They keep telling me gone are the rules. Kids mouthing off the long and the tooth.
Radio Méga 99.2, on écoutait Chinese Man et le titre Déjà Vu. Et on est dans Échange et Regards pour notre dernière partie d'émission. Et c'est Bastien Hénard qui a reçu Gérald Ojoula pour nous parler de son film Tchoukar le Poulingue. On les écoute tout de suite.
Bonjour Gérald Ojoula.
Bonjour.
Vous êtes réalisateur de films, vous habitez à Valence et vous avez réalisé un film, j'ai envie de dire sur Valence, mais plutôt sur le quartier du Polygone qui s'appelle Tchoukar le Poulingue. Déjà des mots, on voit des mots, peut-être des mots originaires du quartier. Tchoukar qui signifie beau, joli. C'est peut-être pas la sonorité. Cette sonorité ne donne peut-être pas l'idée de beau ou joli. Est-ce que je me trompe, Tchoukar?
Pour moi qui l'ai connu enfant, si. Tchoukar, ça vient de ce qu'on appelle la langue romanie. Donc plutôt gitan, roumain, enfin voilà, gens du voyage, on va dire. Et en fait, c'est Tchoukar, mais il y a plusieurs orthographes à Grenoble où j'ai passé mon enfance, c'est Tchoukar avec un T. Et sinon, on dit Tchoukar tout en le prononçant Tchoukar. Voilà.
Alors, vous êtes arrivé dans le coin à Valence, vous étiez adolescent pour le collège. Mmh. Et dans les années 80, vous habitez un an dans le quartier du Polygone. Mmh. Est-ce que déjà, à ce moment-là, vous êtes dit, vous le preniez en photo, ce quartier, ou vous le filmiez ?
Pas du tout. Non, je ne filmais pas du tout. Par contre, j'avais conscience que c'était un quartier cinématographique. Parce qu'il y a beaucoup d'arêtes, des immeubles, des angles très droits et tout. Et je me disais, tiens, on peut faire beaucoup de travelling, des travelling latéraux. Mmh. Voilà.
Comment il a évolué, ce quartier, selon vous, entre l'année où vous y avez vécu et aujourd'hui ? Comment vous décririez l'évolution du quartier ?
Alors après, je ne suis peut-être pas forcément, comment dire ça, même avec cette année-là, c'est peut-être pas suffisant pour en parler dans cette évolution-là, parce que pendant, après, moi, j'ai quitté Valence, je ne l'ai pas vu pendant longtemps aussi, je ne le fréquentais plus vraiment.
Mais vous l'avez revu en 2022-2023 pour votre film.
Oui, voilà. Non, après, moi, j'ai une autre histoire, en fait, par rapport au Polygone. En fait, je n'habitais pas encore à Valence, j'avais une tante, enfin, une grande tante qui habitait ici, à Valence, qui était venue habiter ici, là. En ayant quitté ses Cévennes natales. Et sa fille cadette, qui avait une dizaine d'années de plus que moi, finalement, quatre générations, fréquentait la MJC d'autrefois. Mmh. Et elle m'amenait notamment voir des films qui étaient présentés par Françoise Calvez et Claude Labru, qui après ont créé le crack qui est devenu le luxe.
Un cinéma, donc,
voilà.
Donc, une ville de cinéma, on peut
voilà.
le préciser.
Et donc, du coup, j'ai eu, comment dire ça, j'ai développé ma cinéphilie, entre guillemets, par la MJC du Polygone et par ces gens-là. Et j'ai développé ma première photo là-bas dans un atelier
c'était
de la
quoi,
MJC.
Cette photo, qu'est-ce qu'il y avait dessus?
Rien. En fait, c'était rien de spécial. En fait, c'était anecdotique. C'était mes premières photos et voilà, je m'amusais avec un vieil appareil russe. Et voilà.
Alors, pourquoi il y a cette envie de faire de la photo, d'instantanéiser, de prendre le moment?
Alors, moi, c'est pas tant de prendre le moment, en fait, parce que là, par exemple, j'ai fait ce qu'on appelle un documentaire, et en fait, même à l'intérieur de ce documentaire-là, j'aime bien faire des espèces de mises en scène, des mises en style, voilà. C'est un peu ça que je dis que je fais un film, au-delà d'un documentaire.
Ouais.
Même si, bon.
Et qu'est-ce qui a fait au début, adolescent, peut-être que vous avez pris de la photo ? C'est quoi qui vous...
Alors la photo, c'est très compliqué. À 13 ans, je voulais déjà faire des films. Ouais. Et une autre de mes tantes a dit à ma mère qui était inquiète, achète-lui un appareil de photo, il va faire ses armes avec, ça va
c'est
le calmer.
Limiter,
ça va le calmer et ça ne m'a pas du tout calmé.
Alors du coup, vous vous mettez au film. Il y a Poleng, on va en parler, hein, qui a été tourné entre Tchoukar le Poleng entre mi-2022 et mi-2023. Cette première caméra, c'est plus pareil, hein. Il n'y a plus l'arrêt sur image. Là, il faut tourner. La première caméra que vous avez entre les mains, vous allez vous l'amener où ?
Ou alors la première caméra que j'ai entre les mains, enfin bon, donc j'ai commencé par un appareil photo qui est un appareil photo russe à 13 ans. Et à 15 ans, avec des copains, on décide de faire, en rentrant en seconde, on décide de faire un court-métrage. Et donc, on s'achète une caméra Super 8 et on monte un petit court-métrage entre nous en muet. Mais c'était une fiction, mais voilà, c'était sans le son.
On essaiera de la retrouver peut-être dans des archives. Ouais. Vous arrivez en mi-2022, vous réalisez ce documentaire Tchoukar le Poleng dans le quartier du Polygone. Qu'est-ce qui vous amène à ça ? Qu'est-ce qui se passe avant ? C'est quoi le préparatoire pour arriver à faire ce film ?
En fait, il y a une dizaine d'années, j'ai déjà fait un film sur un quartier de Valence qui était le quartier du Plan. J'ai pris beaucoup de goût à faire ça. J'ai découvert des choses que j'ignorais de moi-même dans la capacité à faire parler les gens, à les mettre à l'aise et à provoquer des choses. Voilà.
Comment on fait ?
Je
ne
sais rien.
À l'aise, les gens.
Mais je ne sais pas. En fait, franchement, je ne sais pas. C'est peut-être, on va dire inné. J'en sais rien. Après, c'est aussi parce que bon, dans la vie, je suis aussi comme ça. On va dire ça comme ça. Ouais. Mais après, oui, c'est vrai que je les mets à l'aise. Je les écoute beaucoup. Je les rencontre d'abord au préalable avant de faire une interview.
Comment se fait cette approche, cette rencontre ? Qui c'est l'intermédiaire ?
L'intermédiaire, c'est que, par exemple, le plan, en fait, c'était tout simple. J'ai rencontré 2-3 personnes qui m'ont donné chacun 5 noms. Et à partir de ces 5 noms-là, on rebondit, on n'arrête pas d'irriguer. Et je me rappelle, pour ce film du plan-là, j'ai rencontré pendant 9 mois pendant 9 mois avant même de produire une seule image. Mais après, quand je lance la chose avec les gens que j'ai, entre guillemets, fait caster, comme on dit aujourd'hui, donc j'ai choisi que ce soit eux et pas un autre qui serait présent dans le film, je connais déjà plein de choses d'eux. Et ça me permet, au moment où on tourne, de mieux savoir les relancer ou faire des pas de côté, des rebonds, etc. etc. Voilà. Et puis aussi, j'aime bien aussi les mettre dans, de choisir les lieux où je vais les interviewer.
Cette relation qui va s'installer pour un film, on va parler du Polygone en soi, mais cette relation que vous installez avec les gens, elle perdure au-delà de votre travail ?
Alors oui, elle perdure. elle perdure et en même temps pour ce film du polygone c'est encore mieux que d'habitude parce que un film, je dis toujours qu'un film c'est aller vers l'autre et en même temps ce film là a permis de relier les gens entre eux et même de renouer un lien qu'il y avait entre certaines personnes. Il m'est arrivé plein de fois où je rencontrais des gens, j'interviewais, et après, je sais pas, dans la discussion, ils savaient que j'allais rencontrer telle autre personne. Ah tiens, passez-lui le bonjour de ma part, est-ce que vous auriez pas son téléphone, son mail et tout. Et ce film-là a relié à nouveau certaines personnes du quartier.
Alors justement, voilà. On peut le voir à 18h15, le 18 avril, à la médiathèque La Tour Maubourg. Ce film, allez-y, on va pas tout dévoiler, mais... C'est quoi l'angle d'attaque? Alors, il y a la rencontre avec les gens. Comment après on met en scène tout ça?
Alors, oui, c'est vrai que je ne vais pas donner tous mes coups stylistiques qui sont dedans. Mais... non, mais en fait, c'est. Bon, le titre, c'est Tchoukar le Poling. Et entre guillemets, entre parenthèses, il y a un sous-titre, c'est Histoire d'un quartier, mais histoire avec le S entre parenthèses, pour indiquer que c'est une vision subjective à la fois de ma part et à la fois de ceux qui interviennent dans le film. Il n'y a pas de voix off. J'ai juste demandé à un historien guide conférencier de donner certains cadres par rapport à l'histoire du quartier, d'où ça venait ce titre du polygone, enfin le nom du polygone, qu'est-ce que représentait ce territoire avant qu'il y ait le quartier d'habitation depuis 59. Et à partir de là, on roule. Mais il intervient juste de 3 minutes au bout de 10 minutes d'introduction et après, tout se fait par les habitants. Quoi.
C'est un an de travail, 2022-2023. J'imagine que il y a le montage peut-être là-dedans. Combien d'heures passées avec ces habitants?
J'arrive pas à quantifier, comme je n'ai pas encore. Je suis même pas allé voir réellement combien j'avais d'heures de rush. Voilà. Après, ça a été un vrai challenge, hein, parce que il faut quand même parler aussi de la restitution, la première qui a eu lieu donc en 2023, c'était à Lux où il y a eu 4 projections en tout. La première fois, en fait, on a été débordé, il y avait trop de monde dans la salle. Donc il a fallu demander à des personnes de ressortir et même là je crois qu'on était au-dessus des normes de sécurité. La préfète qui était là a même vu la séance assise par terre comme moi, mais ça je le savais pas, on me l'a dit après. Et il a fallu organiser une deuxième projection dans la foulée pour que les gens qui étaient à l'extérieur puissent rentrer à nouveau et voir le film.
D'où vient cet engouement? C'est qu'est-ce qu'on vous a fait comme retour?
Apparemment les retours sont très positifs, mais alors après voilà, bonne raison, mauvaise raison, voilà, il y a un grand amour pour ce quartier là. Après ce qu'il faut savoir c'est que beaucoup de gens. Parce qu'il y a même des gens qui m'ont appelé pour me remercier et des gens qui n'ont pas forcément habité le quartier mais qui ont un rapport avec le quartier. Ce quartier-là, par le polygone, la patinoire et la MJC, ça a été un lieu très fort de la ville. Mmh. Et du coup, le polygone, ça parle à tout le monde.
Voilà. Est-ce que ces habitants que vous rencontrez, avec qui vous nouez des liens, est-ce qu'ils étaient là? Est-ce qu'ils étaient au Lux, dans la salle?
Oui, bien sûr. Bah, en fait, à 80%, il y avait qu'eux et les autres, c'était des gens qui, eux aussi, avaient un parcours qui était lié avec le quartier du Polygone.
Le quartier. Ouais. Effectivement, on a pu le voir sur les réseaux sociaux, une certaine émotion à voir ce film. Vous avez fait le film sur le plan. Est-ce qu'il y a eu la même vibration quand vous l'avez sorti, celui-là, ou c'est spécial au Polygone?
Alors, on va dire que c'est peut-être un peu plus spécial au Polygone pour ce que j'ai dit, parce que le plan, c'est différent. Comme le disait quelqu'un qui était interviewé dans le film du plan, on vient pas au plan comme ça. On y rentre, c'est un hasard, un accident quand on rentre. Autant que le Polygone, il y a toujours eu des gens pour avoir quelque chose à faire au Polygone. Donc, du coup, voilà. En même temps, il y a quelque chose de commun à tous ces quartiers. Je peux le montrer dans n'importe quel quartier de France. Ça parle à tout le monde, ces histoires-là. Et même dans les villages, ça leur parle, parce qu'il y a aussi des histoires de village, en fait. Mmh. Et le plan, il y a autant d'amour. Simplement, il y a ce truc que n'a pas le polygone d'avoir eu ces infrastructures qui font que ça draine du monde extérieur au quartier, dans le quartier.
C'est une histoire d'humanité finalement.
Oui.
Pas plus, pas moins, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est duplicable? Ce mot est très moche, mais est-ce qu'on peut imaginer que on a besoin d'entendre les habitants parler? En tout cas, les habitants ont besoin de parler, de s'exprimer. Est-ce que la méthode, peut-être, que vous avez élaborée de rencontres, c'est des choses que vous allez refaire, vous avez dit en France, dans les villages en ruralité aussi?
Oui, non. En fait, c'est parce que le film du plan, notamment, je l'avais montré ailleurs, il était dans les festivals, des choses comme ça et tout. Et je l'avais même montré également à l'école d'architecture de Saint-Etienne. Et il y avait une élève qui était intervenue pour dire « Mais c'est marrant ce que vous racontez là, les gens de mon village peuvent dire exactement la même chose que ces habitants du quartier du plan. » Et je pense que si elle avait vu le film du Polygone, elle aurait dit la même chose. Voilà.
Ça serait presque une bonne conclusion, ça, finalement. Les gens, toutes les personnes qui habitent quelque part peuvent raconter leur territoire, là où elles sont. Peut-être terminons par La suite de ce film, il est là à Valence. Vous avez dit 80% de personnes qui viennent le voir, forcément, sont dans le film ou des personnes très concernées habitant le quartier. Est-ce que c'est un film qui peut aller plus loin, qui peut être vu ailleurs, sachant qu'on vient de parler d'humanité, on vient de parler finalement d'universalité, quelque part. Est-ce que vous avez cette idée d'aller le montrer ailleurs ?
Alors, j'aurais dû, mais en fait, je l'ai un peu mis de côté pour une raison très simple, un changement par rapport au plan, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, si on veut présenter le film dans un festival, il faut payer la présélection.
Oui.
Voilà, donc du coup, ça m'a un peu... Voilà, je devrais peut-être pas passer outre pour certains festivals l'envoyer quand même, mais du coup, j'ai même pas fait l'effort de... Voilà, j'en suis désolé.
Deux mots avant de redonner la date, deux mots pour les Gérald Ojoula, pour les gens qui nous écoutent. Pour qu'ils aillent voir le film Tchoukar le Poulaigne, c'est quoi en... Allez, deux mots, une phrase maximum.
J'aurais dû repenser à ce que j'avais écrit. J'écris des choses bien, mais à l'oral, je suis un peu moins bien. Non, comme je l'avais dit une fois en présentation, c'est un film en 53 rues, 25 000 fenêtres, 14 immeubles, enfin il y en a moins en fait, voilà. Et puis des visages, des sourires, des histoires, voilà. Et puis de l'amour, voilà.
Allez écouter ces histoires pleines d'amour le 18 avril à 18h15 à la médiathèque La Tour Maubourg, ça se passe à Valence. Merci beaucoup Gérald Ojoula.
De rien.
Je rappelle que vous êtes réalisateur et que peut-être on retrouvera encore Tchoukar le Poulaigne plus tard ici dans les salles de cinéma. Merci, à bientôt.
À bientôt.
C'est la fin de cet échange et regard. Merci à tous. Merci à nos invités, Anne-Marie Georges et Jimmy Levacher, et puis Gérald Ojoula au micro de Bastien Hinard. Merci aussi à Colline pour la technique. C'est, je pense, peut-être l'une de ses dernières techniques d'échange et regard parce qu'elle nous quitte bientôt. C'est la fin de son service civique. Et puis merci à Pierre Sylvain, le poète du groupe, pour sa chronique décapante, comme le dit Jimmy Levacher. À jeudi prochain!